de sujet. Et jusqu'il y a 3 semaines, en fait, c'était pas du tout sur ce que je vais prêcher aujourd'hui que j'allais prêcher. Et puis il y a 3 semaines, Dieu a commencé à me parler. Et puis d'après ce que j'ai entendu ce matin, je dis oui, c'est vraiment ce que Dieu a à dire ce matin. Donc moi, je suis convaincue que ce qu'on va partager aujourd'hui, c'est pour plusieurs personnes ici. Donc soyez attentifs parce que Dieu nous parle ce matin. Pierre, est-ce que tu peux mettre le premier verset? Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse. Délivre-moi de mes tourments. C'est bien édifiant, hein, comme verset. Oh, seul, malheureux, c'est l'angoisse, c'est... Mais, vous savez, depuis 3 semaines, je ne sais pas combien de personnes j'ai discuté avec qui m'ont dit, mais je me sens tellement seule en ce moment. Et c'est pas toujours les personnes à qui on pourrait penser. Il y a plusieurs personnes dans plusieurs situations différentes qui m'ont dit, mais je me sens tellement seule. Et ma question c'est, où est Dieu? Quand je me sens seule et malheureuse, où est Dieu? Où est Dieu? Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va survoler, et je dis survoler parce que je ne vais pas faire plusieurs prédications, on va survoler le vécu de 4 personnages dans la Bible. 4 personnages très très différents de toutes les époques, de toutes les classes sociales avec tous les dons ou pas. Parce que ces 4 personnes sont représentatives un peu des situations où on peut se trouver seul, où on peut se trouver malheureux. Et ce qu'on va voir, c'est ce qui les a mis dans cette situation-là, et puis quelle était la réaction de Dieu. Parce que Dieu, on sait que Dieu ne change pas. Dieu, il est le même aujourd'hui, hier et demain. Donc, sa manière de répondre aux gens qui sont dans la solitude et qui sont dans le malheur, ça aussi, ça ne change pas. Donc, on peut prendre les choses de ces 4 vécus. Et ce qu'on va faire, on va regarder une esclave, on va regarder un prophète, on va regarder un évangéliste, et on va regarder le Fils de Dieu. Et on va voir ce que Dieu a fait dans ces 4 situations. Il faut qu'on prenne ça pour nous. Donc, soyons attentifs, parce que Dieu va nous parler. Il fallait voir la tête de Pierre quand je lui ai donné la liste de versets. C'est long. Mais l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas que moi, je vous parle beaucoup. Je veux que la parole parle. Donc, on va beaucoup être dans les versets. On a beaucoup de versets, mais ne vous inquiétez pas parce que je ne vais pas prêcher 30 minutes en plus. D'accord? C'est la parole qui va nous parler. Et donc, ce qu'on va faire d'abord, on va regarder les 4 épreuves, les 4 difficultés. Et notre première personne, c'est Agar. Agar. OK? Donc, on est loin, loin, loin dans le passé. C'est l'esclave de Abraham et Sarah. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est quelqu'un qui a été un peu prêté pour porter un enfant. Et dans notre premier passage, on est en Genèse 16, verset 3. Donc Sarai, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Puis on va juste sauter un peu. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, donc Agar qui attend un enfant, elle se met à mépriser sa maîtresse. Alors Sarai dit à Abraham, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. » Et Abraham lui répondit, ta servante est en ton pouvoir. Agis envers elle comme bon te semblera. Alors Sarai la traita si durement que celle-ci s'enfuit. Déjà, c'est un peu moche comme histoire. Et on va voir dans un instant quelques éléments de plus. Mais ce petit extrait-là, on trouve Agar seule dans le désert. Elle s'enfuit, on découvre qu'elle s'est enfuie dans le désert. Et elle est seule. Donc ça, c'est notre première épreuve. Donc c'est la solitude, c'est le malheur qui vient quand on est maltraité par les autres, quand on est rejeté par les autres, quand on ne convient plus dans une situation et on est un peu poussé dehors. Deuxième épreuve, et on va parler d'Élie. Okay. Élie, grand prophète. C'est où il pouvait prêcher le feu. Il annonçait toutes sortes de choses qui se sont accomplies. Et ce qu'on découvre en 1 Roi, chapitre 18 et 19, nous lisons l'histoire de la confrontation entre Élie, prophète de Dieu, et puis les prophètes de Baal, qui était le dieu païen de la région. Et c'est une victoire glorieuse pour Élie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire. Il y a ce moment, il y a tous les 400 prêtres de Baal qui sont en train d'appeler Baal à répondre. Il n'y a rien qui se passe. Et puis il y a Élie qui fait tout ce qu'il peut pratiquement pour que ça ne marche pas. Et puis il dit, alors Éternel, montre qui est le vrai Dieu. Boum! Et ça explose. Il y a le feu du ciel. Et donc il y a une grande victoire. Dieu montre vraiment qui il est. Et Dieu se manifeste puissamment. Et tous les prophètes de ce Dieu païen sont discrédités complètement. Mais Élie, il est menacé par la reine Jézabel. Et il a peur pour sa vie. Malgré tout ce qui s'est passé, il a peur pour sa vie. Il s'enfuit à l'autre bout du pays. Et il dit à Dieu de le laisser mourir tout de suite quand il n'en peut plus. Il dit, je suis à bout. J'en peux plus. Et il dit ceci à Dieu. Est-ce qu'on peut mettre le prochain? Il dit, j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste. Et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. Donc ça, c'est quelqu'un qui a vécu de grandes choses et pourtant il se trouve seul. Il se trouve seul, il a envie de mourir. Il se sent tellement seul, il dit « je ne peux plus. Autant mourir maintenant, c'est fini. » Donc ça, c'est Élie, ça c'est notre grand prophète. Et puis on avance encore. Donc première épreuve, Agar, qui est rejetée par les autres, maltraité. Épreuve d'Élie. Il a le sentiment d'être le seul dans le combat. Il peut plus. Il ne peut pas supporter ça tout seul. Troisième épreuve, c'est l'épreuve de Paul. Et là, on va juste lire un verset. C'est 2 Timothée 4, 16. Vous savez que Paul, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur de proclamer l'évangile, il n'avait pas peur de parler de Jésus, et forcément, ça a apporté des ennuis. Et ce qu'on voit ici, il est obligé de présenter sa défense au tribunal. Il faut justifier pourquoi il prêche ce qu'il prêche. Et ce qu'il dit, c'est Paul qui parle là, il dit « La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est vu m'assister. Tous m'ont abandonné. » Alors, il faut savoir ici, lorsqu'on parle de tribunal, ici, ce n'est pas pour des points sur son permis que Paul est devant le tribunal, là. Il s'agit de sa vie ou de sa mort. Il est en train d'essayer de se libérer de cette pénalité de mort que le tribunal veut donner. Et il n'y a personne qui n'est venu. Personne de son entourage, personne de l'église locale, personne de sa groupe de maison, personne. Et donc, il est là en train de se justifier. Vous avez vu, je pense, à la télé, quand il y a des grands procès qui se passent et on voit, voilà, il y a toujours l'équipe de gens qui soutient celui qui est jugé. Et puis, il y a les autres qui veulent vraiment que ça soit, que ça tape fort, la justice. Mais Paul, il a personne. Il regarde dans la salle. Nada. OK? Donc, ça, il est là, seul, et ça, c'est plutôt à cause du choix des autres. Il aurait pu être d'autres personnes là. Mais pour des raisons qu'on ne connaît pas, peut-être il faisait un peu froid, peut-être, je sais pas, panne d'essence, peut-être il y avait des fêtes de famille, voilà, on ne sait pas, mais il n'y avait personne là. Et puis on arrive aux quatrième épreuves. Et là, c'est une épreuve qu'on connaît bien, parce qu'on en parle souvent. Et c'est l'épreuve de Jésus. Est-ce qu'on peut mettre Matthieu 26? Et c'est Jésus. Et Jésus, à ce moment-là, il sait ce qui l'attend. Il sait qu'il y a un chemin de souffrance devant lui. Et donc, il va prier. Et il va avec ses amis pour prier, parce que c'est bien, quand on sait qu'il y a de la souffrance, c'est bien d'être entouré par ses amis pour prier. Mais qu'est-ce qui se passe? Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsemane. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Je ne sais pas pour vous, quand je pense à Jésus, c'est rare que je pense à Jésus dans cet état-là. Et pourtant, il a vécu ça. Une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. » Il pouvait, à ce moment-là, mourir de tristesse. Il est tellement, c'est tellement lourd sur lui. Restez ici et veillez avec moi. Et puis, il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre, quelques pas, il n'est pas loin. Il a pris quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi, ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Mais toutefois que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Et ensuite il revint auprès des disciples, et qu'est-ce qui se passe? Il les trouva endormis. Super le soutien, les amis. Merci beaucoup. Là, je pouvais mourir de tristesse, là. Et pour toi, c'est la sieste. C'est assez grave quand même. Moi, j'aimerais penser que si j'avais un ami, une amie aussi triste que ça, qui demandait que je prie avec eux, j'aimerais croire que je pouvais tenir une heure avec eux. Mais bon, on peut jamais dire comment on va réagir dans des circonstances. Parfois, et on voit là que, voilà, les disciples, franchement, ils ont foiré le truc. Ils n'ont pas réussi à être les personnes dont Jésus avait besoin à ce moment-là. Donc, il les trouva endormis et il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. » Une seule heure, une petite heure. Et donc là, j'imagine la solitude de Jésus. Tu es transparent devant quelqu'un, tu dis j'ai vraiment besoin de ça. Et finalement, par la faiblesse des autres, ils n'arrivent pas à être à la hauteur de vos attentes. Ça vous est déjà arrivé que les autres ne soient pas à la hauteur de vos attentes? Vous pouvez être honnête, mais moi c'est vrai. Pour moi, il y a les choses parfois que j'ai attendues des autres. Et pour des raisons diverses, j'ai pas eu le soutien que je voulais. Et ça arrive. Faut qu'on soit honnête. Que ça arrive parfois. Et donc on a ces quatre épreuves là. Donc on a le fait d'être rejeté seul parce qu'on est rejeté, parce qu'on est maltraité, il faut qu'on sorte de là. On a l'épreuve qui dit je suis le seul dans le combat, je ne peux plus porter tout ça tout seul. Je ne peux pas, l'épreuve de Élie. On a l'épreuve de Paul qui dit au moment critique, les gens, je sais pas pourquoi, ils ont choisi de ne pas être là. Et puis il y a l'épreuve de Jésus où dans sa solitude, il y avait des personnes qui, on avait l'impression qu'il y avait peut-être de la bonne volonté, mais finalement, il n'était pas à la hauteur. Et donc ces quatre personnes, très très différentes, avec des histoires très différentes, avec les parcours très différents, tous les quatre passé par ce moment de solitude. Et donc ma question dans ces cas-là, c'était, mais Dieu, t'étais où dans ces situations-là? T'étais où? Tu faisais quoi? Ta réponse, c'était quoi? Parce que quand on rencontre les gens qui sont dans la solitude, ou si on passe par ça nous-mêmes, on a besoin de pouvoir dire, bah, qui est Dieu dans cette situation-là? Et c'est ce que je veux faire maintenant. Ce qu'on va faire maintenant, on va reprendre ces quatre histoires et on va voir la suite. D'accord? Donc, on va reprendre avec Agar. Donc, comment est-ce que Dieu a réagi dans le cas de Agar? Alors, Genèse 16, 7 à 13. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Deux questions très importantes. D'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Ah, ça c'est chouette. Oui, là où j'étais maltraitée, là où on m'a obligée de travailler dur, et toi, ta réponse dans cette situation-là, bah, c'est que je rentre. Et que je m'humilie pour qu'elle me reprenne. Qui veut? Qui est preneur pour ça? Moi, j'avoue, je lis ça, je dis, c'est pas top comme option. Et c'est là où ça devient intéressant. Et il ajouta, je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Puis il ajouta, voici que tu attends un enfant, et ce sera un garçon, et tu l'appelleras Ismaël. Et Ismaël, tu vois ce que ça signifie? Ça signifie Dieu entend. Dieu entend. Et pourquoi est-ce que tu vas lui donner ce nom-là? Car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. On va avancer un peu. Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom d'Ata El Roi. Et ça signifie, c'est toi le Dieu qui me voit. Agar ne savait pas où elle allait. Notez bien que quand Dieu lui pose la question, il dit, d'où viens-tu ou où vas-tu? Et où vas-tu? Elle sait répondre à la première question. Elle sait d'où elle vient parce qu'elle n'aimait pas. Elle est partie de là. Mais finalement, elle s'était enfuie sans but. C'était juste, il faut que je sorte. Et elle sort. Mais sans direction, sans savoir. Et Dieu, dans cette situation-là, il savait que s'enfuir, c'était pas la bonne solution, même si c'était difficile là-bas, parce qu'il le renvoie vers Abraham et Sarai. Mais pour l'aider à traverser l'épreuve, il lui donne trois assurances. Première chose, il dit, je t'entends, Ismaël. J'imagine que tous les jours, lorsqu'elle parlait à son fils, Ismaël fait ceci, Ismaël. À chaque fois, elle est en train de confirmer que oui, Dieu entend. Dieu entend. Et pendant les années qui passaient, il y avait un rappel constant que non, Dieu, il a entendu ma détresse. Et puis, deuxième assurance, c'est que je te vois. ta situation n'est pas cachée de moi. Il y avait, je pense que c'était Josiane qui disait tout à l'heure, il y a les personnes qui se croient oubliées de Dieu. Et en fait, non, Dieu entend. Et Dieu te voit. Peu importe tes circonstances, Dieu t'entend. Il t'entend dans ta détresse et il te voit. Il n'y a rien qui est caché de lui. Et la troisième assurance qu'il donne à Agar, c'est que quelque chose de bien va sortir de cette situation à long terme. Et parfois, ce que Dieu nous fait dans des situations difficiles, il n'y a pas de sortie tout de suite. Mais ce qu'il dit, c'est que ça va aboutir à quelque chose. Ça va aboutir et tu vas avoir l'assurance que je t'entends, que je te vois et que oh, finalement, il y a un plan. Il y a un plan, même si pour l'instant, c'est dur et c'est compliqué. Il y a un plan. Et donc, c'est comme ça que Dieu a réagi à Agar dans cette situation-là. Deuxième situation, on a Élie. Élie qui n'en peut plus. C'est trop dur. Il mène le combat seul. Alors, qu'est-ce qui se passe pour lui? Si tu peux mettre la suite, on a un premier roi. Regarde la première chose que Dieu dit à Élie. N'oublie pas qu'il s'est enfui à l'autre bout du pays. Première chose que Dieu lui dit, va, retourne sur tes pas. Ouais, parce qu'il y a une reine folle là-bas qui a envie de me couper la tête. Et faire beaucoup d'autres choses que je vais pas apprécier. Mais c'est la même, Dieu dit la même chose à Élie. Il dit, alors juste pour être clair, il ne dit pas toujours ça dans les situations difficiles. Mais dans ces deux cas particuliers, Dieu voulait pas la fuite de la personne. Il voulait pas qu'on parte dans le désespoir en disant voilà, ça va plus, c'est fini, tout ce que je peux faire c'est sortir. Et pour Agar et pour Élie, il a un peu la même réponse. Donc c'est pas en s'enfuyant toujours que ça va aller mieux. Parfois Dieu a besoin de nous rencontrer là où on est pour nous aider à grandir en quelque chose ou à faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il dit à Élie? Il dit retourne dans ta situation. Donc voilà, vers la reine folle, Jézabel. Mais, comme avec Agar, il lui donne certaines assurances. Et ce qu'il fait, on va pas lire les versets suivants, mais ce qu'il dit à Élie, c'est, t'as encore des choses à faire. Tu as encore des choses, non, c'est pas fini. Tu dis tu peux plus, moi je dis que tu peux. Moi je dis qu'il y a des choses à accomplir et c'est ton job de les faire. Parce que moi je t'ai appelé à faire ça. Et tu vas pas abandonner maintenant. Il y avait notamment l'onction de son successeur, Élisée, parmi d'autres choses. Et l'autre chose, n'oubliez pas que Élie avait dit, mais je suis le seul qui reste. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, non, il y a 7000 personnes. C'est pas les prophètes, d'accord, mais c'est des fidèles. Il y a 7000 fidèles qui restent dans le pays, qui n'ont jamais loué cet autre Dieu. Et eux, ils ont besoin d'un prophète. Ils ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Ils ont besoin d'aller quelque part. Ton travail n'est pas fini. Et donc, finalement, le message que Dieu dit à Élie dans sa situation de difficulté, c'est non, tant que moi je dis pas que c'est fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Même si tu te sens seul, moi je te donne l'assurance que tu vas accomplir ce que tu dois accomplir. Parce que la force vient de lui. C'est pas en nous-mêmes qu'on va toujours trouver la force de faire quelque chose. Mais Dieu, il nous donne ce qu'il nous faut. Et en fait, ce qu'on lit dans ce passage, c'est que l'ange lui donne à manger, il dit, allez, bon, debout, en route. Donc, Dieu lui donne donne à manger, pour prendre des forces. Et souvent, ça va mieux après avoir mangé. C'est souvent, on est un peu... Et puis, une bonne tasse de thé, un bon petit bout de gâteau, on est prêt Je sais pas, ça c'est mon truc à moi. Vous avez peut-être d'autres choses, mais c'est parfois Dieu dit ou il va donner un petit verset comme ça. C'est ouais, oh non, en fait, ça c'est vrai. Ça c'est mon Dieu. Un petit quelque chose à manger spirituellement. Et c'est en route encore. Donc c'est ce qu'il dit dans le cas d'Élie. Donc on a Agar où il dit non non, rentre, mais je te vois. Je t'entends. Et ça va aller, il y aura quelque chose de bien qui va sortir de là. À Élie, c'est non, c'est pas fini. C'est pas fini. Vas-y, t'as toujours des choses à faire. Persévère. Persévère. Et puis on arrive au cas de Paul. Alors, comment réagit Dieu dans le cas de Paul? Donc, il est laissé seul, voilà, sans le soutien de ses amis, tout seul, tout triste. Donc, Paul dit, si tu peux afficher Pierre, merci. Donc, il dit, voilà, la première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister, tous m'ont abandonné. Qui ne leur en soit pas tenu rigueur? J'avoue que j'ai dû le chercher pour savoir ce que ça voulait dire, parce que c'était pas une tournure que je connaissais. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire? Ouais. C'est juste les Anglais qui sont un peu perdus dedans. Finalement, c'est mais c'est pas grave. Il faut qu'on oublie cette offense-là, que ce soit pas quelque chose sur leur ardoise de pécher contre Paul. Ok. Et il dit c'est le Seigneur qui m'a assisté. Et qui m'a donné la force d'annoncer pleinement le message pour qu'il soit entendu par tous les non-juifs. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Donc, non seulement il oublie que les gens lui ont fait du mal, mais c'est allez, mais Dieu était là! C'était bien. J'ai fait ce qu'il fallait. Dieu m'a délivré. Et donc là, on voit une autre réaction de Dieu. Là, on n'a pas l'impression qu'il a vu un ange, peut-être, c'était le cas. Mais en tout cas, il sentait la force en lui pour faire ce qu'il fallait faire. Et pour dire ce qu'il fallait dire. Et pour l'encourager quand, naturellement, c'était un peu la grande déprime. D'accord? Et puis, Jésus, ça fait toujours bien de regarder la vie de Jésus. Parce que la Bible dit qu'il a été tenté comme nous avons tous été tentés. Et il a tenu bon et il savait quoi faire. Et ce que j'aime ici, c'est qu'avant ce moment d'angoisse et de solitude que Jésus avait vécu, le Père avait déjà donné une assurance à Jésus, que j'imagine il portait dans son cœur. Et Jésus dit, on est quelques chapitres plus tôt, et Jésus dit dans Jean 16, 32, il dit, « Mais l'heure vient, elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. » Mais, et ça c'est bien, mais, je ne suis pas seule. Parce que le Père est avec moi. Et ça, c'est avant d'être abandonné par tout le monde. Il savait en avance que le moment viendra où, franchement, les gens qui l'entouraient ne seraient pas à la hauteur. Mais le Père lui donnait l'assurance, peu importe, quelque part, ce qui se passe autour. Moi, je suis avec toi. Et ce que j'admire beaucoup chez Paul et chez Jésus ici, c'est que il réussissait à ne pas être rancunier. Malgré le sentiment d'abandon, parce que Jésus, comme je disais, il savait d'avance qu'il serait abandonné, mais il a lavé les pieds de ses disciples quand même. Il savait avant de le faire qu'il y aurait une réaction un peu comme ça, que voilà, il serait pas à la hauteur. Mais il a lavé les pieds de ses disciples quand même. Il a dit quand même, mais vous êtes mes amis. Et donc, Jésus n'avait pas dit, Bah, vous n'êtes pas à la hauteur, donc tant pis, il faut qu'on coupe ce lien-là et je vais chercher d'autres personnes qui vont faire mieux. Jésus n'a pas dit ça. Et Paul dit, je choisis d'oublier cette offense-là. Qu'on le pardonne, cette offense. Et vous savez pourquoi il a pu faire ça? Ça m'a frappé, c'est juste quelque chose qui m'a frappé dernièrement. C'est parce qu'on lui a déjà fait la même chose. Il a eu un modèle. Et ce modèle, c'était Étienne. Parce que n'oubliez pas que Paul, avant de rencontrer Jésus, était parmi ceux qui étaient là quand il lapidait Étienne. Et qu'est-ce qu'Étienne avait dit? Ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pardonne-le. Et donc, personnellement, je pense que c'est à cause de cet exemple-là que Paul, quand les autres lui faisaient tort, qu'il a réussi à dire, non, quelqu'un m'a déjà étendu la grâce de me pardonner quand moi je n'étais pas à la hauteur. Moi, je pensais être le plus religieux de tout, et en fait, il était le plus religieux de tout, mais il n'a pas réussi à voir Dieu en Étienne. Et Étienne, son attitude a permis à Paul d'avoir un bon modèle par la suite. Et c'est ça qu'on voit chez Paul. Je pense que Paul comprenait mieux que personne qu'on ne fait pas toujours ce qui est bon et juste. Parce que le seul qui est capable de ne jamais décevoir, c'est Dieu. La première fois que j'ai lu l'histoire d'Agar, franchement, j'étais déçue avec Abraham et Sarah. Héros de la foi. On dit, ouais, Abraham, quel homme. Mais franchement, dans cette histoire-là, j'ai dit, mais Abraham, comment est-ce que ça peut être bien de laisser ta femme maltraiter une servante? Parce que finalement, toi, tu n'avais pas assez de foi pour croire que Dieu allait faire ce qu'il avait fait. J'ai eu du mal avec ça, voilà, je suis honnête avec vous. C'est pas parce que quelqu'un figure dans la Bible comme grand personnage de foi qu'il n'y a pas des lacunes, qu'il n'y a pas des faiblesses, qu'il n'y a pas des fautes. Heureusement que Dieu nous montre sa grâce. Parce que franchement, je pense qu'on passe tous par ça. Mais le seul qui est capable de ne pas nous décevoir à un moment donné, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, j'aimerais simplement vous encourager. Si vous passez par un moment de solitude ou de malheur, ne laissons pas cette solitude, ce malheur, vous rendre amer et rancunier. Vous savez, la déception viendra de temps en temps avec les autres. Face à quelqu'un qui se sent seul ou malheureux, parfois nous manquons de compassion. C'est vrai. Parfois, nous ne comprenons pas la douleur. Nous ne comprenons pas la solitude de quelqu'un d'autre. Nous manquons de sensibilité. Parfois, nous sommes tellement dans la souffrance nous-mêmes que ça cache un peu la souffrance des autres. Et on réagit pas forcément de la bonne manière. Parfois, nous ne savons pas quoi dire. Je pense qu'on a tous passé par là. Quelqu'un te dit quelque chose qui va pas et c'est qu'est-ce que je dis maintenant? Je ne sais pas. Il y a les gens qui sont vraiment doués pour dire la bonne chose au bon moment. Et merci Dieu pour ces personnes-là parce que c'est pas moi et c'est pas tout le monde. Il y a des personnes qui ont vraiment, ils savent exactement ce qu'il faut dire au bon moment. Ça, c'est un don de Dieu. Si ça, c'est vous, chérir ce don. Parce que Dieu et son Église a vraiment besoin de ça. Parfois, nous ne savons pas quoi dire. Parfois, nous pensons que nous avons quelque chose à dire, mais nous nous sentons tellement incapables de changer la chose qu'on ne dit rien. Parfois, soyons honnêtes, on est égoïste. C'est un peu compliqué de répondre, donc on ne répond pas. Parfois, et ça c'est le pire, et je suis coupable de temps en temps, parfois on oublie. On oublie que quelqu'un nous a raconté quelque chose, et donc on pose une question qui n'est pas du tout sensible, la prochaine, puis après c'est, oh, mince, j'aurais pas dû faire ça, parce que j'aurais pas dû dire, j'avais oublié que ça, c'était la situation. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois. Et je suis désolée si je vous ai blessé en disant ces choses comme ça. Et donc, il y a beaucoup de raisons qui font que nous sommes faillibles et que nous ne sommes pas toujours à la hauteur. Mais tout ce qu'on peut faire, je pense, dans ces situations-là, c'est de choisir de pardonner, choisir d'oublier l'offense et de se décider de croire que l'intention de l'autre est pour nous bénir, même quand les choses sont mal exprimées. Parce que, je ne sais pas pour vous, moi quand je parle à quelqu'un, j'ai jamais l'intention de blesser quelqu'un. Et souvent il y a les choses qui sont dites, et on dit, oh, mais ils ne savent pas comment ça fait mal. Mais dans ces cas-là, il faut qu'on choisisse de dire, non, mais même si c'était mal exprimé, je sais que leur intention, c'était de m'encourager. Même s'ils ont vraiment pas bien fait le travail de m'encourager, je vais choisir de croire dans leur intention qui était bonne. Ça vous va? Vous êtes d'accord avec moi? On peut faire ce choix ensemble? Parce que déjà, ça va rendre la vie de l'Église beaucoup plus heureuse si on fait ce choix-là. C'est très difficile d'être offensé par les choses. Mais il faut qu'on se décide. Non. Je sais que Sonia, qu'elle m'aime. Et que si elle me dit quelque chose, c'est parce qu'elle veut que je sois encouragée. Ou peu importe qui. Voilà, je prends Sonia parce qu'elle est juste... Voilà, je te vois, Sonia. Mais ça, c'est important. Et donc, pour conclure, ce que je veux dire simplement, c'est que je sais très bien que notre vie n'est pas un copier-coller de ces quatre cas-là. On a tous notre vécu très différent. Mais Dieu reste le même. Et il prononce sur nous les mêmes assurances lorsque nous sommes seuls et malheureux. Il a les mêmes assurances pour nous. Nous n'allons pas forcément sortir de la situation tout de suite. Des quatre cas qu'on voit là, Paul, c'est le seul qui voyait un peu une réponse immédiate. Et même ça, c'était temporaire. Il a eu un sursis de sa sentence, sa mise à mort. Mais ça durait pas très très longtemps, mais il a été délivré au moins d'une mort immédiate. Mais pour les trois autres personnes, on a Sarah qui se méfie encore d'Agar. Donc je sais pas comment elle l'a traité, mais ce qu'on voit, c'est que une quinzaine d'années plus tard, Sarah la renvoie encore une fois. Et cette fois, c'est pour de bon. Et Agar se retrouve encore dans le désert avec son fils cette fois-ci, parce que tous les deux ont été virés. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu vient encore. Et lui parle. Il répète ses promesses. Il dit, maintenant, tu vas commencer à voir l'accomplissement de ce que je t'ai promis. Et je t'entends toujours. Et je te vois toujours. Et même si tu es dans le désert, je suis là. Et puis, il y a Élie. Il y a Jézabel, elle menace encore la vie d'Élie. Mais Élie, il réussit à dire, non, ce que Dieu m'a donné à faire dépasse les autres choses. Et je ne vais plus laisser les menaces de Jézabel être plus fort que la mission que Dieu a mis devant moi. Et le fait que Dieu lui a donné un successeur, c'est maintenant, on a doublé le nombre de prophètes en Israël. Donc, on passe de Élie, seul, et puis il y a Élie et Élisée. Et il y a tout un apprentissage qui démarre là. Et puis, il y a Jésus. Ben, on connaît l'histoire. Jésus, il savait même avant de prier que la volonté de Dieu ne changeait pas, qu'il fallait aller à la croix, il fallait mourir, il fallait passer par toutes ces souffrances-là. Jésus, quand il priait, quelque part, c'était si ça peut changer, mais en fait, voilà, que ta volonté soit faite. Dieu n'a pas enlevé la situation difficile. Mais j'imagine que dans son cœur, c'était « Non, n'oublie pas ». n'oublie pas ce que je t'avais dit, que je suis ton père et je suis avec toi. Vous savez, la Bible dit, je pense que c'est le psaume 27 qui dit, même si ton père ou ta mère t'abandonne, moi, je vais te recevoir. Et ça, c'est toujours la réponse de Dieu dans nos situations de solitude. Peu importe, ça peut être les gens les plus proches de toi qui te rendent seul et malheureux. Mais Dieu nous reçoit quoi qu'il arrive. Et donc, voilà ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Premièrement, comme pour Agar, il vous dit, je vous entends, je vous vois, vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas caché de ma vue. Je répète, je vous entends, si vous avez prié, j'ai entendu. Votre situation, c'est pas un mystère pour moi. Je sais chaque élément de votre situation. Je vous vois. Je vous vois. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas oublié. Je vous donne cette assurance. Première chose, que je vous vois dans votre situation. Deuxième chose, comme pour Ellie, il nous dit, c'est pas fini. C'est pas fini. Vous avez des choses à faire. Vous avez une mission à accomplir. Peut-être que vous ne savez pas pour l'instant quelle est cette mission. Peut-être il y a des choses que je dois encore révéler. Mais tant que moi je dis que c'est pas fini, c'est pas fini. Et quand c'est fini, bah comme Paul, il y a un moment où il dit voilà, j'ai fait ce qu'il fallut, j'ai tout donné et maintenant Dieu va m'amener dans la gloire. Tu sais, le moment où Dieu dit que c'est fini, ça va pas être triste pour nous parce qu'on va savoir qu'on a accompli ce qu'il a fallu accomplir. Mais c'est pas dans la tristesse et la solitude que c'est fini. C'est toujours dans la, moi je vais sortir dans la gloire. C'est ça que Dieu dit. Donc, si vous êtes seul, si vous êtes malheureux, je peux vous garantir que c'est pas la fin. Je peux vous garantir que Dieu a des choses à faire. Je peux vous garantir que il y a des personnes à toucher. Qu'il y a des choses à restaurer. Qu'il y a de l'espoir à partager. Qu'il y a des choses à remettre en route. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose que Dieu dit. Comme vous allez, c'est lève-toi et fonce. Fais ce que je t'ai appelé à faire. Troisième chose, comme pour Paul, il nous assiste. Il nous donne de la force et il nous délivre malgré le manque de soutien humain. Ne dites jamais que je ne peux pas faire ça parce que j'ai pas le soutien humain. Si Dieu veut qu'on fasse quelque chose, c'est Dieu qui va nous donner la force à le faire. Alors, idéalement, oui, c'est quelque chose qu'on fait en communauté, mais il faut jamais que le manque de soutien humain soit le frein qui nous empêche d'avancer dans ce que Dieu nous a demandé de faire. Parce que Paul a dit, mais c'est Dieu qui le fait. Donc, même si je suis seule, je suis pas seule. Je sais que je suis pas seule. Et puis, il y a Jésus, comme pour Jésus. Il a le cœur de Père pour nous, qui dit, peu importe ce que tu ressens. Et on voit Jésus, il était triste à en mourir. Mais il y avait quand même la parole de Dieu dans son cœur qui disait, tu n'es pas seul, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Et vous savez, juste pour terminer, lorsque Jésus parlait du venu du Saint-Esprit à ses disciples, il ne parlait pas en premier lieu de la puissance de l'esprit ou des dons de l'esprit ou toutes les choses. On a tendance à parler de l'esprit. Ah oui, c'est la puissance, oui, c'est le don. Mais quand Dieu a présenté pour la première fois le Saint-Esprit à ses disciples pour dire quelqu'un va venir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin que, quoi? Afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Donc c'est même pas qu'il est proche maintenant. Il est à l'intérieur. Non, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Mais je reviendrai vers vous. Et donc, lorsque Dieu parlait du Saint-Esprit pour la première fois, c'est pour qu'on ne se sente pas seul. C'est aussi simple que ça. Moi, je dois partir, mais vous ne serez pas seul. Et comme le Père a dit à Jésus, tu n'es pas seul parce que je suis avec toi. Jésus, il nous dit, moi je pars, mais vous ne serez pas seul parce que il y a le Saint-Esprit que je laisse, qui sera auprès de vous et en vous. Et oui, il y a tout le reste. Il y a la puissance du Saint-Esprit, il y a les dons de l'Esprit, il y a les fruits de l'Esprit. Mais le principal, c'est qu'on ne se sent pas des orphelins. Jésus ne veut pas qu'on se sente seul. C'est très simple. Et donc, juste pour terminer, j'aimerais faire quelque chose de simple. C'est que si vous vous sentez seul, si vous vous sentez un peu dans des situations comme ça, on va simplement prier pour que vous soyez rassurés par le Saint-Esprit, que vous n'êtes pas seul. Alors ça, c'est quelque chose, si vous voulez recevoir de la prière, il n'y a aucun problème, avancez-vous. Mais franchement, c'est quelque chose qui va se passer là où vous êtes. À votre place. Et je vais demander à l'équipe de louange de revenir. Et on va prendre le chant qui dit je suis tranquille car tu es Dieu. Qui commence, abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Et je vous encourage simplement, ce que j'ai dit aujourd'hui, si ça vous a parlé, que vous dites, Saint-Esprit, j'ai besoin de me sentir pas seul. Et je crois que le Saint-Esprit va venir et va vous rassurer que vous n'êtes pas seul. Donc, est-ce qu'on peut tous se lever? Comme je disais, si vous voulez que quelqu'un prie pour vous, il y a une équipe là, on peut prier pour vous, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, je sais que Dieu, il peut faire ça là où tu es. Là où tu es. Si tu es déçu par des personnes autour de toi, choisis maintenant. Te dire non, je vais oublier cette offense là, parce que finalement je sais que la seule personne qui est fiable à 100%, je sais que c'est Dieu. Et donc plutôt de laisser remplir mes pensées avec comment les autres n'ont pas bien fait, maintenant je vais dire mais Jésus, je sais ce que toi tu peux faire. Je sais que tu peux me rassurer, tu peux m'accompagner. Il veut apporter un peu de chaleur à votre cœur aujourd'hui. Un peu de chaleur, pas de l'extérieur, même si ça c'est pas mal non plus. Mais dans vos cœurs, il y a les cœurs un peu froids qui ont besoin d'un câlin. Et le Saint-Esprit dit, je suis là. Je suis là pour ça.